Bonjour, ici Brian Dion. Aujourd'hui à profil, Olivier Leclerc. Olivier Leclerc, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui à profil. On ne fera pas semblant de ne pas se connaître. On est des amis dans la vie, des collaborateurs également. Mais pour le bénéfice de nos nombreux auditeurs, j'aimerais bien que tu nous dises d'où tu viens, où tu habites maintenant.
Certainement. Je viens de la très belle ville de Québec. Je suis né à Sainte-Foy, dans la petite banlieue québécoise, et puis j'ai grandi là. Ensuite de ça, j'ai habité un certain nombre d'années dans le centre-ville de Québec, là, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Puis j'ai décidé de déménager dans la très belle région de Bellechasse lorsque j'ai eu environ 22 ans. On a déménagé d'abord à Saint-Anselme. Puis on s'est établi, on a trouvé une petite maison. Puis ça fait une dizaine d'années qu'on est maintenant à Saint-Malachie.
Dis-moi, je me trompe ou même ta famille a suivi, est-ce que ça se peut?
Oui, effectivement, mes parents se sont achetés une maison à Saint-Philémon. Suite à ça, on a eu trois beaux enfants, moi puis ma conjointe. Puis les grands-parents avaient le goût de catiner, je dirais.
Excellent. Écoute. Je suis un peu au courant là, de ton parcours, mais c'est un parcours qui est assez particulier. On te connaît aujourd'hui comme étant un musicien plutôt sage, mais tu as eu des écarts de conduite. Alors, parle-nous de ton parcours scolaire, puis ensuite, gêne-toi pas pour nous raconter un peu ton parcours de musicien là, qui t'a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui. Là.
Ben, écoute, tout commence très simplement dans mon école primaire. Cinquième année, je deviens le président de ma classe. Et puis, ça fait de moi, tout d'un coup, une espèce de leader. Et puis, je porte ce chapeau-là, je te dirais, depuis ce temps-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des comités ou des trucs comme ça, par la force des choses, je me ramassais à siéger sur ces comités. Et puis, ça a été la même chose au secondaire. Et puis, ça l'a, entre autres, donné... le fait que je me suis mis à jouer de la musique et à créer des groupes de musique et à leader ces groupes de musique-là, souvent, on a fait d'abord du vieux rock, là, du Led Zepp, puis des Smoke on the Water de ce monde-là. Puis ça a viré tranquillement ensuite vers la musique punk rock qui était très à la mode dans ces années-là, autour de 1998, là. Puis on a fait des gros spectacles. J'avais fait venir à l'époque le groupe Grimmskunk à mon école secondaire. Puis on avait fait la première partie. Puis l'année d'avant, on avait fait la première partie de Groovy Aardvark aussi. T'sais. Fait que j'étais un tripeux quand même de grosses bûches. Là. J'aimais bien ça quand ça ramassait. Puis quand est venu le temps de choisir pour le cégep, je me suis pas posé longtemps la question. Je savais très très bien des secondaires 4 que je m'en allais en musique. Puis, j'ai entamé mon cégep là, avec plein d'espoir, mais je me suis rendu compte que tabarouette, les études en musique, c'est de l'ouvrage plus que je m'y attendais. Puis justement, moi, j'étais bien impliqué dans le conseil des étudiants, puis j'avais ci, puis j'avais une job. Puis là, je partais en voyage l'été de mon cégep, hein, aller dans l'Ouest, faire la rumba, puis jouer de la musique là-bas. Puis là, gros, gros trip, mais... J'ai fessé un mur solide ma deuxième année de cégep. J'ai trouvé ça très difficile de trouver le temps pour la pratique puis la persévérance dans tout ça. Donc, j'ai arrêté l'école pendant une année. J'ai voyagé, je suis allé au Mexique avec des amis. On a passé 3 mois sur le pouce au Mexique, vraiment. Puis ça m'a donné, en fait, là, la perspective nécessaire pour revenir ensuite aux études puis avoir vraiment le goût de me dépasser là-dedans. Puis ça a été l'impulsion qui a fait en sorte que, justement, ensuite de ça, j'ai fait mon cégep, mais je me suis pas pressé pour le faire. Je l'ai fait en 4 ans au lieu de 2. J'ai pris des cours d'espagnol au travers. J'ai pris moins de cours aussi pour pouvoir vivre et étudier correctement au lieu de me garrocher là-dedans comme un fou. Là, t'sais. Je me disais qu'en sortant de la musique, c'est pas comme si j'avais un diplôme qui me garantissait une job à 100 000 piastres par année, fait que je pouvais prendre le temps d'étudier correctement la chose. Puis suite à ça, ben, j'ai continué. Je suis allé à l'université. J'ai étudié, donc, au cégep, j'étais en guitare classique et guitare jazz. Puis au cégep, j'ai fait composition contemporaine classique. Puis j'ai suivi tous les cours qu'il fallait aussi pour les arrangements jazz. Puis c'est pas mal ça, je te dirais, au niveau de mon parcours scolaire.
Puis professionnellement, j'imagine que t'es pas devenu propriétaire d'une entreprise du jour au lendemain, là.
Non, effectivement, j'ai commencé par enseigner beaucoup. Suite à ça, ça a été la première job évidente pour quelqu'un qui sortait de l'école de musique. Puis au travers des petits contrats qui rentraient. Puis moi, mon but était de devenir compositeur. Donc, tranquillement, quand j'ai, entre autres, déménagé dans la région, je me souviens d'avoir fait un suivi pour fonder mon entreprise ici. Une entreprise qui s'appelle Création et production musicale Parnassum. Et puis, c'est depuis ce temps-là que je roule ma bosse en tant que micro-entrepreneur dans la belle région de Bellechasse. J'ai pas mal de passions. En fait, une des choses que j'adore et qui a fait en sorte que j'habite là où j'habite maintenant, c'est que j'adore la forêt, marcher dans la forêt. C'est quelque chose qui est en moi omniprésent. Mais par-dessus tout, mis à part ça, l'art en général, et particulièrement la musique, me passionne depuis un nombre d'années important.
Alors aujourd'hui, Olivier, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu as ton entreprise, tout ça, mais il y a une nomination importante qui... On a assisté à une nomination importante dernièrement, en ce qui te concerne.
Certainement, mais avant de te parler de cette nomination-là, je sais que tu fais, justement, dans ton émission, tu parles à différents types d'entrepreneurs. Puis moi, ce que je voulais souligner par rapport à ma condition d'entrepreneur, c'est que je suis vraiment un micro-entrepreneur qui se considère lui-même comme une entreprise. Mm-hmm. Mon entreprise, à moi, n'a pas pour but de grandir et puis d'engager des gens à n'en plus finir. Mon but à moi, c'est tout simplement d'articuler mes différentes possibilités d'emploi autour de mon entreprise. Puis dans le cas qui nous intéresse, tu parlais d'une nomination importante. Ben, comme tu sais, je suis dans le milieu de la musique depuis longtemps. Puis comme je t'expliquais au niveau de l'idée des projets puis tout ça, ça fitait assez bien. Puis quand j'ai vu passer l'annonce pendant le temps des fêtes qui cherchait un nouveau directeur artistique pour la Maison de la culture de Bellechasse, ben au début, j'étais pas trop sûr parce que j'ai déjà beaucoup d'ouvrages dans mes différents contrats. Puis finalement, j'ai eu envie de relever ce défi-là parce que je me suis rendu compte que je pense que j'ai vraiment les compétences pour le faire. La drive, puis la vision pour le faire
aussi. Mais Olivier, disons-le, c'est un poste de directeur artistique, mais c'est plus un poste de directeur.
Oui, oui, certainement, mais on est deux. Tu sais, il y a une directrice administrative qui vraiment s'occupe des trucs de gestion que j'ai plus de misère. Je vais t'avouer honnêtement, j'en fais parce que par la force des choses. Ouais. Mais c'est vraiment une team vraiment trippante. Mais au niveau de tout ce qui est de la programmation, des choix artistiques, des idées à créer pour justement crinquer cette maison de la culture-là pour que ça devienne vraiment un lieu extrêmement fréquenté. Puis lucratif aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire non plus. Moi, j'ai vraiment dans mon idée que la culture ne doit pas être nécessairement subventionnée pour vivre. Elle est en soi un moteur économique vraiment important, particulièrement pour des régions qui ont tendance à se dévitaliser comme Bellechasse ou Etchemin. On ne se comptera pas de menterie, là, c'est pas facile de la rétention des gens ici. Puis mon point que je dis par rapport à ça, c'est selon moi, les arts et la culture peuvent devenir un facteur important d'attractivité.
Mais tout à fait, parce que si on parle du départ des jeunes, c'est peut-être, j'irais pas jusqu'à avancer que l'offre culturelle est un enjeu majeur pour les retenir. Sauf que les gens qui prennent leur place, les gens qui profitent de l'étalement urbain pour venir s'installer ici, acheter une maison peut-être à un coût plus raisonnable, ben si l'offre culturelle et là, ça va influencer leur choix, c'est certain. Là.
Oui, moi, je pense que pour vrai, c'est pas le facteur primordial. On s'entend qu'avoir un travail et beaucoup de services autour, c'est important. Mais c'est comme le petit oomph qui fait qu'on dirait que tout d'un coup, on est fier de notre région, tu sais, parce qu'il se passe de quoi, puis qu'on n'a pas une semi-honte de venir d'une place. Au contraire, on en est un peu fier parce qu'on a une culture qui est vivante puis qu'on est content de la partager. T'sais.
Écoute, homme impliqué, est-ce que tu t'impliques pour d'autres causes ou sur d'autres organisations que celles qui te fournissent un salaire?
Oui, absolument. Je travaille depuis, ça fait 7 ans en fait que je travaille comme bénévole sur le comité culturel de Saint-Malachie, mon village. Depuis 10 ans, j'ai créé avec un comité le Festival Celtes et Compagnie, qui est un festival qui célèbre autant les cultures originaires de Saint-Malachie, c'est-à-dire irlandaise, écossaise, mais aussi la musique traditionnelle et les arts traditionnels québécois. Parce que ultimement, en cherchant dans les sources de notre musique traditionnelle, on se rend compte assez rapidement que tout provient de l'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire autant la vieille musique française que la musique irlandaise, que la musique anglaise, que la musique écossaise, la musique galloise. Donc, l'appellation celtique pour le festival celtique regroupait tout ça. Donc, ça nous a vraiment permis de créer un branding, si je peux utiliser l'expression, qui était très rassembleur, de créer une fête familiale qui marche. C'est ça, c'est la 7e année cette année. Puis c'est vraiment un énorme succès, là.
Ouais. J'habite moi-même Saint-Malachie, je suis à même de le constater. C'est un festival celte. Par contre, les gens, les locaux ont une scène pour eux s'ils le désirent, là. Vous
Oui.
n'êtes pas arrêté sur un style, sur une expression artistique en tant que telle, là.
Exactement. L'idée du Festival 7, c'était de créer une signature propre puis reconnaissable, mais le et compagnie, Festival Celtes et compagnie, était dès le départ primordial parce que c'était très important pour nous de pouvoir s'ouvrir à autre chose et non pas juste rester encarcané dans un seul style. Donc, ce qui nous permet justement, je vais même, je pense, vous donner un scoop, là, de savoir que Monsieur Jean-Philippe Couette, qui est un artiste qui n'est pas du tout celtique, va jouer cette année au festival. Donc, c'est un bel exemple de Celtes et compagnie.
Olivier, quels sont les principaux défis auxquels tu fais face dans le cadre de tes activités professionnelles?
Bien, en travaillant dans le milieu des arts, il y a quelque chose qui est toujours fondamental quand on veut gagner sa vie avec les arts, c'est de trouver un équilibre important entre ce que nous, personnellement, esthétiquement, on a le goût d'amener comme contribution artistique dans notre travail. Et d'un autre côté, il faut trouver aussi des choses que les gens ont envie, dans le cas de la musique, d'écouter et d'entendre. Souvent, il y a un gros clash entre ce que nous, on veut faire puis ce que les gens ont le goût d'entendre. Fait que de pas se blaser en ne faisant pas trop de contrats de musique qui ne nous intéressent pas, mais en même temps, on n'a pas le choix d'en faire parce qu'on veut en vivre, de se laisser toujours une porte ouverte pour des statements artistiques qui nous ressemblent vraiment beaucoup. Au niveau là, de tout ce qui est de contrat que je fais en arrangement, en composition, en interprétation de la musique, en réalisation d'albums, ça, c'est le plus gros défi. Maintenant, c'est un peu le même défi quand on devient gestionnaire, justement, de la Maison de la Culture, dans mon cas. C'est que nous, artistiquement, il y a des choix qui nous tenteraient de faire. Puis on voudrait faire venir tel et tel artiste, mais on sait très bien que la population n'embarquera pas du fait que souvent, c'est des artistes un peu obscurs que nous, on aime bien. Puis il y a beaucoup de monde à l'international, exemple, qui vont pouvoir aimer cet artiste, mais dans notre région, c'est pas assez connu pour rentabiliser un spectacle. Fait que c'est encore une fois une question d'équilibre au niveau de la programmation, mais je pense qu'on peut aller plus loin que ça, en fait. C'est de trouver des solutions justement à ce genre de fait. J'ai un exemple très concret à te donner par rapport à la programmation de la Maison de la Culture 2018-2019. On fait venir un groupe du Cap-Breton qui s'appelle Coig, qui font de la musique justement celtique. Vous voyez tout de suite le billet
Ben
que
oui,
j'ai
la couleur est là,
transporté
hein, ben
du
oui.
festival. Mais pour s'assurer d'avoir des gens dans la salle, parce que c'est pas un band très connu, même si c'est un band qui tourne à l'international. Ils sont en Norvège tout l'été, puis ils se promènent dans des festivals. C'est des musiciens d'une qualité remarquable. Mais comme ils ne sont pas du tout connus, on a pensé à faire une première partie avec le chœur celtique de Saint-Malachie.
Voilà.
Donc, on a une vingtaine, en fait, on est rendu à une trentaine de choristes qui vont pouvoir venir faire la première partie d'un groupe professionnel à la Maison de la Culture et puis qui vont nous permettre aussi d'avoir un minimum de gens pour venir voir ce spectacle-là. Puis je pense que tranquillement, il va pouvoir se développer une confiance entre la direction artistique de la Maison de la Culture et le public, puis éventuellement, peut-être que notre public pourra s'élargir. Et c'est mon objectif.
OK. Généralement, est-ce que tu dirais que les programmateurs, parce que c'est ce que tu es aussi, là, mais dans nos différents événements publics, sont un peu frileux de faire découvrir, est-ce qu'il manque de confiance envers le public?
Oui, l'intelligence du public est définitivement sous-estimée, c'est particulièrement visible hors des grands centres parce que l'aspect rentabilité devient vraiment, vraiment important. Donc, ils n'osent pas du tout prendre aucune chance. Je trouve ça extrêmement dommage. Je pense qu'il va falloir trouver des solutions justement parce que ça tue la relève, ça tue la créativité puis ça tue la curiosité des gens aussi. Parce que les gens, ils vont juste aller voir des valeurs sûres. Mais des fois, de coupler une valeur sûre avec une option de découverte ou de trouver des manières inventives, justement, de motiver les gens à aller consommer de la culture qui n'est pas de la mainstream, de la culture de masse populaire qui est tellement, tellement prémâchée puis tellement entendue partout, tout le temps. C'est sûr, c'est facile, on est sûr de vendre, mais... faut absolument. Si on risque pas en tant que programmateur, on donne pas la chance à des bons artistes émergents de sortir et surtout, on permet pas au public de découvrir des choses qu'ils pourraient vraiment aimer.
Est-ce que c'est dans les cartons de penser à un lieu satellite où il pourrait y avoir des spectacles de moindre envergure qui sont pas nécessairement moins intéressants, mais avec lesquels il y aurait moins de pression pour remplir une salle? Il y a combien de places à la Maison de la culture de Bellechasse?
On a 353 places dans la salle de spectacle.
Bon, mais pour la population qu'on a, ça demeure une grande salle.
Oui.
Est-ce que c'est dans les cartons d'avoir un lieu de chute où des artistes de moindre envergure ou des gens qui débutent dans le métier ou qui sont moins connus ou qui offrent un produit moins populaire auraient accès?
Ben, mon idée là-dessus, Brian, est assez, assez intéressante, justement, du fait que ce ne serait pas d'avoir un satellite, mais plutôt de centraliser à la Maison de la culture l'ensemble des petites activités qui peuvent se passer dans les petites salles de toute la région de Bellechasse.
Pour amener de l'achalandage.
Exactement.
Créer l'habitude.
Puis c'est aussi dû au fait que nous, on a une bonne machine pour faire la promotion. Autant au niveau de nos médias sociaux qu'au niveau de la publicité écrite, on pourrait justement, je pense, créer un momentum régional pour justement mousser tous ces petits événements-là à l'intérieur de la structure de la Maison de la culture. Parce qu'il faut le rappeler, les gens pensent souvent que c'est à tort la Maison de la culture de Saint-Damien, mais c'est la Maison de la culture de Bellechasse. Donc, ce serait selon moi une bonne façon de bien la faire porter son nom. J'ai la chance d'avoir un mentor depuis une bonne dizaine d'années. Il s'appelle François Couture. C'est un compositeur qui a un studio dans la ville de Québec. Et puis, il m'a inspiré énormément dans différents choix que j'ai eu à faire tout au cours de ma carrière. Et puis, même jusqu'à aujourd'hui, tout récemment, on a travaillé ensemble. Et on continuera de travailler ensemble.
Olivier, ton rôle à la Maison de la culture et ton rôle en général en tant qu'entrepreneur et particulier, tu dois presque dresser le portrait culturel de notre région.
Mm-hmm.
De quoi ça a l'air, le portrait culturel de notre région?
Ben moi, tu vois, ça fait une dizaine d'années que je suis là, fait que je vais y aller avec toute humilité. Là, je peux pas dire que j'ai une connaissance approfondie totale, mais j'ai eu la chance de diriger le groupe vocal L'Air du Temps pendant 6 ans. Et ça m'a permis justement de m'immiscer solide dans la culture. Puis je joue aussi avec Marie. On a joué beaucoup dans la région ici. J'ai fait du chansonnier, j'ai fait de la musique traditionnelle avec mon groupe Baragouin, de la musique irlandaise avec Irish Tree. On a beaucoup joué dans la région. Puis j'ai le goût de te dire que culturellement, il y a de l'espace. C'est-à-dire qu'il y a du stock, il y a des très bons artistes en fait, mais il devrait y en avoir plus. Je vais donner un exemple. Je cherchais violon et violoncelle pour accompagner le chœur celtique au festival. Puis j'étais pas capable de trouver des cordistes dans la région de Bellechasse. J'ai demandé à mon réseau de musiciens que je connaissais, puis c'était impossible. Donc selon moi, ça c'était un gros problème. Et puis pour ce faire, je pense qu'entre autres, travailler sur l'enseignement, la mise en valeur, mais être capable de les faire travailler aussi, tu sais. Parce que des musiciens qui réussissent à travailler dans la région, dans différents contextes, pourraient devenir intéressés à venir s'établir. Puis ça pourrait être intéressant. Là, je parle beaucoup de la musique parce que c'est mon domaine, mais il y a les arts visuels aussi, il y a le théâtre, la culture au sens large. Je pense qu'il y a un bassin vraiment intéressant culturel dans Bellechasse, mais qui va être important de le bonifier.
Olivier, je te connais. Pour certains, le discours que tu tiens, puis même moi, je t'encourage dans ce discours, pourra avoir l'air élitiste, mais il n'est pas question de ça du tout. Là. Je veux dire, pour toi, la culture a autant sa place dans un derby de démolition qu'à la maison de la culture qu'à l'épicerie. Là. Est-ce que je me trompe?
Non, tu ne te trompes pas du tout. La culture, c'est vraiment plus large que l'orchestre symphonique. Là. C'est loin d'être élitiste. Au contraire, moi, un grand-papa qui joue dans sa cuisine, autant de valeur. À peu de choses près, là, on s'entend, là, c'est pas du tout la même chose, mais qu'un grand concertiste, dans ce sens où il vit sa culture, il l'incarne, et puis je pense que ça, en soi, ça a de la valeur. Ensuite de ça, il y a différents niveaux de préparation pour créer des événements, il y a différents types d'événements, une démolition, c'est pas du tout la même chose qu'un concert de musique classique, on s'entend. Mais je pense que la culture au sens large, quand on le voit de ce sens-là, a tout intérêt à faire partie intégrante du développement de nos régions parce que tout se passe là-dedans, je pense.
Tu viens d'entrer en poste à la Maison de la culture dans 10 ans. Ouais. Je ne sais pas si tu vas y être encore. Est-ce que tu t'y vois encore?
Je m'y vois encore.
Et comment tu vois la culture en Bellechasse et même dans les Etchemins, parce que moi, personnellement, je pense qu'il y aurait un maillage à faire. Là. Mais comment tu vois ça dans 10 ans?
Ben moi, dans 10 ans, là, je pense que les gens vont être presque jaloux autour, dans ce sens qu'ils vont se dire hey, « ils ont réussi à faire de quoi de cool dans cette région-là. » Parce que mon feeling personnel, c'est qu'il y a comme une espèce de trésor inexploité ici dans la région, du fait de la proximité avec les grandes villes de Québec et Lévis, du fait de l'espace qu'on a, le territoire qu'on a est magnifique. On a des super belles montagnes, des terres fertiles pour les cultivateurs. On a le bord du fleuve aussi dans Bellechasse. C'est vraiment magnifique à habiter. Je comprends toujours pas, en fait, pourquoi que c'est pas la ruée vers Bellechasse, les Etchemins, parce que selon moi, on est des précurseurs à habiter ici, puis dans peu de temps, c'est une région qui sera le Klondike.
Écoute, Olivier Lotelin, je suis certain que les gens des autres régions sont déjà jaloux depuis ta nomination à la Maison de la culture, parce que en tant que client de la culture en Bellechasse, mais aussi en tant que collaborateur de tes activités, je trouve que c'est une des belles nouvelles qu'on a eues dans les dernières années au niveau culturel en Bellechasse. Puis, pour nos auditeurs, tu sais, je te surnomme le parrain de la culture en Bellechasse. Alors, la place du parrain, c'est à la direction. Donc, c'est une excellente nouvelle. Puis, je te remercie vraiment d'avoir participé à notre discussion aujourd'hui. Puis, je te souhaite vraiment bonne chance dans tes activités à la Maison de la culture. Et je te souhaite aussi que tes activités entrepreneuriales se poursuivent parce que tu connais déjà du succès et c'est bien mérité.
Merci beaucoup, Brian.
C'était Profil avec Olivier Leclerc. Merci à Isabelle Giasson pour le support technique. Merci à Passion FM pour le micro. Mon nom est Brian Dionne. À bientôt.